Voilà pour ce matin, j'allais dire me hasarder. Non, je ne vais pas me hasarder. Je vais quand même aborder un thème sur lequel j'ai réfléchi depuis un petit bout de temps. Il y a peut-être des choses qui seront dans le désordre, il y a des choses qui vous feront peut-être réagir, réfléchir. N'hésitez surtout pas. Il est dit que les Béréens, ils passaient aussi leur temps à vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur racontait était exact. Alors, je vous demanderai de faire la même chose ce matin, comme d'habitude. C'est en relisant l'Épître aux Hébreux, en faisant l'étude de cet Épître aux Hébreux, que j'étais amené à réfléchir sur ce premier chapitre, et peut-être de réfléchir différemment de ce que je le faisais d'habitude. L'Épître aux Hébreux, alors je me suis enjarté ce matin dans une chose que j'aurais pas dû faire, mais je l'ai faite quand même. L'Épître aux Hébreux, en fait, on n'en connaît pas l'auteur, et on sait à peu près quelle est la date qui pour nous est importante. Maintenant, quand je viens à Darnay, j'ai toujours un souvenir assez profond. C'est que une fois j'ai parlé de Job, et on parle rarement de Job, et j'ai vu des visages qui se sont mis à sourire, et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Et oui, on m'a appris le jour où je prêchais que, en fait, le dimanche d'avant, mon cher collègue avait prêché sur le même sujet. Donc, vous avez entendu parler des Hébreux quand ? C'était pas dimanche dernier, ça va, je peux continuer. Alors, l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur. Cette Épître aux Hébreux, elle est adressée à l'origine à des chrétiens d'origine juive. L'Épître aux Hébreux a aussi un avantage, c'est qu'on connaît à peu près la date, et la date est pour nous importante. Et Christian me l'a rappelé ce matin, parce que je pensais que Christian, il avait bien mangé hier soir, et il m'a rappelé que non, c'était Facebook qui m'a trompé, puisqu'en fait, si j'avais bien lu, c'était une information qui datait d'il y a 6 ans, c'est ça ? Voilà. Ouais, je me suis fait avoir, parce que moi, il me semblait que Facebook donnait des informations du jour, et ben voilà, j'ai pas tout lu. Donc, quand vous lirez l'Épître aux Hébreux, sachez une chose, c'est que l'Épître aux Hébreux a été écrite environ aux années 65-68. Et pourquoi c'est important de savoir cette date, puisqu'en fait, c'était peu de temps avant, quelques années avant, la destruction de Jérusalem et la destruction du Temple. Pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour des gens d'origine juive, ça change tout. Puisqu'en fait, leur repère principal était quand même le Temple, et c'était le seul endroit, ce temple, où on pouvait aller offrir des sacrifices, on pouvait aller avoir le pardon de ses péchés, donc directement à l'intérieur du temple. On ne pouvait pas le faire ailleurs. Et voilà, tant que le temple était encore debout, ces chrétiens d'origine juive se posaient quand même pas mal de questions pour savoir, fallait-il vraiment croire au pardon total qui était donné par le sacrifice de Christ ? Ou fallait-il encore, en parallèle, revenir au temple à Jérusalem pour offrir ses sacrifices ? C'est là la grande question, que nous ne pouvons pas nous poser, puisque nous, on est loin de tout cela, autant du point de vue religieux que de l'époque. Et c'est pourquoi c'est bien de replacer les choses dans leur contexte, puisqu'on va mieux comprendre ce qui est dit, ce qui est enseigné aux Hébreux à ce moment-là, qui se posaient des questions, donc pour savoir qui fallait-il réellement servir. Et là, on va voir dès les premiers chapitres que l'auteur va dire assez clairement que Christ est supérieur à. Et donc, supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur à Abraham, supérieur, etc. Et c'est en relisant le premier chapitre que je me suis pris un peu moi-même dans les pédales. Parce que j'ai toujours passé mon temps à expliquer que Jésus est supérieur à, et notamment, Jésus est supérieur aux anges. Mais finalement, la question qui va se poser, c'est quoi les anges ? Et à la limite, est-ce qu'on y croit ? Tu y crois ? Ça serait facile de faire une tête de smiley, comme on dit, hein ? Quand j'ai vu ta tête, c'était un rond et puis hop, un demi-cercle qui va vers le bas. Mais c'est vrai, Je me suis toujours entêté à prendre ce passage et à expliquer, mais voilà, Jésus est supérieur. Mais supérieur à quelque chose ou quelques éléments qu'on ne connaît pas réellement. Et je me suis dit que peut-être ce matin, il serait utile de faire les choses à l'envers. Je connais Christ, tu connais Christ. Mais peut-être serait-il important de savoir si ces anges ont une action aujourd'hui, ce qu'ils font, s'ils existent encore. Et puis, d'en savoir un petit peu plus sur la hiérarchie et bien d'autres choses de ce genre. J'aimerais lire le texte, donc Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Pardon. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui mon père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà. Ah bah, hop, il va trop vite ou c'est moi qui va passer vite. Voilà, Hébreux 1, vous avez dit les anges. Comme je le mentionnais déjà tout à l'heure, Jésus, oui, on connaît. Jésus, les évangiles nous en parlent. Jésus, l'Ancien Testament nous en parle. Jésus, le Nouveau Testament nous en parle. Jésus, on a une rencontre personnelle avec lui. Mais comparer Jésus aux anges, pour nous, il nous faudrait peut-être voir, mais qui sont ces anges? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on connaît? Alors, on a, voilà, moi j'aime bien... retrouver quelques petites images et je me suis dit c'est ça un ange? Et la première question que je me suis posée, pourquoi on fait toujours des ailes aux anges? Est-ce que les anges ils ont des ailes? Si vous regardez sur internet et que vous marquez image ange, vous verrez des choses extraordinaires. Il y en a même qui correspondent absolument à rien. Mais vous verrez à peu près ce genre de dessin, féminisé, masculinisé, enfin, tout ce que vous voulez, des paires d'anges. Mais les anges ont-ils des ailes? Et c'est là qu'en fouillant un petit peu le texte, tout d'un coup, on se rend compte que oui, il est parlé quelquefois d'une paire d'ailes, de deux paires d'ailes, de trois paires d'ailes. Waouh! Ça, j'avais complètement raté, complètement zappé. Mais complètement. Complètement. Les anges existent-ils? Pourquoi on n'en parle jamais? Est-ce qu'on voit cela seulement comme étant des petites images qu'on met juste dans les livres pour enfants, pour faire passer des messages qu'on n'arrive pas à passer autrement? Ou est-ce que c'est juste bon pour une certaine culture, la culture juive? Ou peut-être même, comme on dit chez nous à Villers, oh, ça c'est souvent chez les Africains que je vais rencontrer cela. Les Africains, ah oui, ils y tiennent beaucoup à leurs anges. Hein. Et puis, il y avait ma grand-mère aussi. Hein. Il y a ton ange gardien avec toi. Ah oui, Un ange gardien, ça existe? Plus personne n'ose répondre maintenant. Est-ce que l'ange... Est-ce que, comment il s'appelle ton ange gardien? C'est ta grand-mère. C'est fou, hein? On a quand même des questions qui sont fortes à se poser à ce sujet-là, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Alors, une chose est certaine, si la Bible en parle, c'est que ça existe. Même parmi les Juifs, chez les Juifs, les anges étaient bien connus, et je vais vous donner juste une seule preuve. Le texte qu'on vient de lire tout de suite, c'est une preuve. Puisqu'en fait, l'auteur va comparer Jésus aux anges. Donc il ne va pas comparer quelque chose avec... Il ne va pas comparer Jésus à quelque chose qui n'existe pas. Hébreux chapitre 1 est déjà une preuve de l'existence de ces anges. Alors c'est vrai que même parmi les Juifs, il y avait des tensions qui étaient à ce niveau-là, par rapport à ce sujet en particulier, puisqu'il y avait notamment les Sadducéens. Vous connaissez les Sadducéens ? Vous savez, les Juifs étaient divisés en trois catégories, et là, les deux premières qu'on connaît le mieux, c'était donc les pharisiens. Pharisiens, on en entend parler sans arrêt. Et puis, il y avait aussi les Sadducéens. Puis, il y en avait une troisième partie encore, je laisserai passer. Mais ces Sadducéens, il est dit qu'ils ne croyaient ni en l'existence des anges et ils ne croyaient pas en la résurrection. C'est les deux points essentiels qu'on reconnaît. Il y en a bien d'autres. C'est les deux points essentiels qu'on reconnaît chez ces Sadducéens. Mais si l'auteur de l'Épître aux Hébreux va comparer Jésus aux anges, c'est que les anges existent d'une manière réelle. Alors je vais en quelques mots essayer de dire ce que les anges ne sont pas, pour essayer de vous dire après ce qu'ils sont, si j'y arrive. Alors je vous dis, hein, c'est un petit peu hasardeux, j'allais dire, non, c'est pas complètement hasardeux quand même, mais s'il y a des choses qui ne sont pas dans l'ordre, c'est pas la peine de me lapider. Vous auriez encore ça sur la conscience. Ce qu'ils ne sont pas. Alors la première chose, je vais vous dire une évidence, mais il faut la dire quand même. Elles ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que dans ce chapitre 1 d'Hébreux au verset 14, le dernier verset, qui est en fait une question, qui n'est pas toujours mise sous forme de question, ça dépend un peu des traductions, mais en fait, nous, on dirait que c'est une question positive. Et donc, il est dit que ces anges nous rappellent qu'ils sont au service de Dieu. Et le verset 13 nous rappellera aussi qu'en réalité, ils n'ont même pas la possibilité d'être à la droite de Dieu. Ils n'ont pas la possibilité d'être à la droite de Dieu. Cette place, elle est réservée d'une manière spécifique. Cette place d'honneur est réservée à Christ. Ils ne sont pas Dieu. Deuxième chose, ils ne sont pas Jésus non plus. Puisque, même référence que tout à l'heure, Jésus est supérieur aux anges. Et il est dit dans le verset 6, un verset qui m'importe, il est dit dans le verset 6 que tous les anges de Dieu adorent Jésus. Il m'importe pourquoi ? Pour montrer que Jésus est supérieur, oui, mais aussi, quand j'ai l'occasion de discuter avec des témoins de Jéhovah, j'utilise souvent ce passage en question. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a certaines versions qui disent dans ce verset que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Mais en fait, quand on creuse un petit peu plus loin, prosterner va aussi dans le même sens, se prosterner pour adorer. Si je ne suis pas assez convaincant, je prends le verset 9. Quand je prends le verset 9 vis-à-vis des témoins de Jéhovah pour démontrer la divinité de Christ, il est dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ta oint, il est parlé deux fois de la même personne, et là, il n'y a plus de doute, enfin, pas chez moi. Voilà, ce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Oh, alors là, vous allez me dire, François, tu t'arrêtes tout de suite, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que vous allez avoir en rapport, tout de suite, dans vos têtes, un certain nombre de passages qui vont nous parler de... d'anges qui sont venus sous forme humaine. Et c'est vrai. Quand on voit notamment des gens qui se sont empressés, je vais vous le dire parce que c'est écrit comme ça, des gens qui se sont empressés d'accueillir des anges, notamment Abraham, Ce qui était très intéressant vis-à-vis d'Abraham, il a couru pour leur donner, pour leur préparer à manger. Pour leur préparer à manger, il a fait attraper le veau, il l'a fait cuire, il a fait cuire le pain, etc. Évidemment, les micro-ondes de l'époque allaient plus vite que les nôtres, n'est-ce pas? Donc, petite boutade, mais ce ne sont pas des êtres humains. À certains moments, ils sont apparus, et encore, il faut qu'on en discute tout à l'heure parce que ça va plus loin. Mais ce sont des esprits, des êtres spirituels, invisibles, mais qui sont apparus à certains moments sous forme humaine pour quelque chose de bien particulier. Hébreux 2, verset 9, va parler de Jésus, et quand il va parler de Jésus, il va dire « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte ainsi par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. » Et c'est vrai que Jésus est supérieur aux anges, mais le temps où il était sur terre, il a été dit qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et on dit de Jésus que le au-dessous des anges, ça peut être deux choses. La première, c'était pendant le temps il était sur la croix, mais les théologiens s'accordent pour dire que le temps où Jésus était sous forme humaine, même s'il était 100% Dieu, 100% homme, il était en dessous des anges. On dit que ces anges ne sont pas engendrés. Ils ne sont pas engendrés. Même de Jésus, le Fils, il est effectivement engendré, mais aucun ange n'a été engendré. Alors ils sont quoi ?
Créés.
Ils sont créés, effectivement. Créés et non engendrés. Et ça fait une différence. Ils n'ont pas de père. Ils ont un créateur, de la même manière que nous. Colossiens 16, en effet, c'est en lui, donc en Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ces anges en font partie. Ils ont été créés et non engendrés. Ces anges aussi ne sont pas pécheurs. C'est les êtres humains qui sont pécheurs. Ben oui, encore fallait-il le rappeler. Sinon, et ça il ne faut pas oublier, sinon les anges déchus, les démons, effectivement, qui eux se sont révoltés contre Dieu et sont dans une situation que nous connaissons bien, donc Satan et ses armées, et je pense en avoir déjà parlé une fois ici, je ne veux pas y revenir, et vous le savez. Alors là, je vais encore poser le doigt sur une grande question théologique que je n'y répondrai pas. Je sais qu'il y a un jeune chrétien qui est arrivé chez nous. Non, je n'y répondrai pas. La grande question théologique est la suivante. Sont-ils ou pas sexués? Alors, on était en train de parler de ça dernièrement dans une étude biblique, et là, il y a un jeune chrétien, un gars qui vient de se convertir il n'y a pas très longtemps, qui sort du milieu gothique, et justement, qui a dit « Ah si, c'est sûr !» Je dis « Ah bon, pourquoi c'est sûr ?» Mais c'est sûr qu'ils sont sexués pour une raison très simple, c'est que si tu regardes le passage de Genèse chapitre 6 verset 2, il est parlé là que les filles des hommes et les fils des anges, il aurait traduit, ont effectivement eu des enfants. Hein, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors il a traduit cela pour dire que c'était les anges et que les anges ont couché avec des femmes et que, enfin, etc., etc. Ta-da-da. Moi, je... Ouais, ça se discute, enfin, les théologiens en discutent. Il paraît qu'il y a un certain moment, les théologiens se battaient là-dessus. C'est pas mon cheval de bataille. Alors, ils ne sont pas. Voilà toute une liste que j'ai trouvée aussi à l'intérieur de la parole. Et puis, je vais vous faire sourire, enfin, j'espère, sauf si je me trompe, mais je peux me tromper, je me suis déjà trompé, hein. J'ai déjà montré ce matin. Voilà, ils ne sont pas ça non plus. Hein. Et ça, vous connaissez, je pense. Hein. Qui ne connaît pas ce personnage? Moi, je regarde très rarement la télé, hormis pour les informations, et j'ai trouvé ce personnage de TF1, sur TF1, je crois, hein. Joséphine, l'ange gardien. Pardon ? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, alors, on va aller plus loin. Moi, je suis du millénaire dernier. Et toc ! Alors, on va tenter de trouver une définition. Et la définition n'est pas évidente. Et je pense que la meilleure définition se trouve dans le verset 14 de notre passage des Hébreux. Les anges sont des êtres spirituels dotés d'intelligence, d'émotion et de volonté. Et cela est vrai des bons et des mauvais anges. Les anges possèdent une intelligence. Matthieu 8, 29, et je peux vous citer d'autres. Laissent paraître des émotions. Luc 2, verset 13, Jacques 2, 19. Et manifestent leur volonté. Le fait qu'il n'ait pas de corps n'affecte en rien leur personnalité. Mais ce verset 14 va nous dire ils sont serviteurs de Dieu en faveur des chrétiens, voire des chrétiens en devenir. Après, on pourrait donner une autre définition. Si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver d'autres choses, mais c'est au moins ce qu'on pourrait décrire d'après la parole de Dieu, d'après ce que j'ai compris. L'autre question qui va venir assez rapidement, c'est chez les anges, y a-t-il une hiérarchie ? Non, mais c'est bien, j'apprécie. Ça montre que les choses ne sont pas aussi claires que ce qu'on pourrait l'imaginer. Qu'on soit pour ou contre, c'est pas aussi clair. Mais voyons ce que la parole de Dieu va dire. La première, c'est vrai que nous utilisons un terme générique, donc les anges. En fait, comme je le disais tout à l'heure, le mot ange est assez souvent cité dans la parole de Dieu. On parle souvent des anges. De temps en temps, on va parler de l'ange, mais on va parler souvent des anges. On va essayer de voir s'il y en a beaucoup ou peu. L'ange Gabriel, merci pour lui. Ces anges-là, un certain nombre de passages, dont notamment Apocalypse 5, verset 11, va nous déclarer qu'il y a des milliers de milliers et des myriades de myriades. Si je traduis en français courant, on dirait des millions et des milliards. On sait qu'il y en a beaucoup. C'est tout ce qu'on sait, d'autres passages en parlent, et je pense notamment le livre de Daniel va l'évoquer aussi assez fréquemment. Invisible, certes, mais les commentateurs disent qu'en réalité, le nom de ange évoque plus une fonction qu'un nom particulier. Ce sont donc des esprits au service de Dieu. C'est surtout cette fonction d'être au service de Dieu qui va être marquée par le mot ange. Mais, il y a aussi dans la parole les archanges. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est le livre de Daniel qui va l'évoquer assez souvent. L'Apocalypse en parlera aussi. L'épître de Jude au verset 9 va l'évoquer aussi. On va parler notamment de l'archange Michel ou Michael. Je ne savais pas que j'avais un fils qui portait le nom d'un archange. Maintenant, je n'en peux pas lui. Des fois, je lui dis que c'était mon ange, mais bon, il n'a pas toujours été un ange non plus, et moi non plus, n'est-ce pas ? En fait. On parle en particulier de ce fameux Michel, on le décrirait comme un archange, et c'est à partir de là qu'on en déduirait qu'il est probable qu'il y ait une certaine hiérarchie. Difficile de pouvoir en dire plus parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments à ce sujet, enfin moi j'en ai pas beaucoup plus sur ce sujet. D'autres vont mettre dans cette hiérarchie, et va mettre aussi dans cette notion d'archange, va parler donc aussi d'un autre, c'est Gabriel. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est l'ange Gabriel qui est venu parler à Marie. On le présente souvent comme cela, mais en fait, la parole de Dieu dit « L'ange Gabriel ne va pas plus loin ». Et pourtant, on va lui affubler un certain titre. D'où ça vient? Je ne sais pas exactement, il faudrait peut-être creuser un peu plus loin. On va dire que c'est lui qui est intervenu aussi auprès de Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, à ce moment où il a dû apprendre qu'il aurait aussi lui-même un fils. Dans la tradition catholique, on va en ajouter encore un autre. On va ajouter l'archange Raphaël, que nous ne pouvons pas trouver à l'intérieur de nos textes bibliques pour la simple raison c'est que ce personnage apparaît seulement dans le livre de Tobie qui fait partie donc, qui est un livre comme on appelle deutérocanonique. Je ne sais pas ma tasse de thé, mais voilà, sachez que ce sont aussi des choses qui existent et qui sont dites. Voilà, les anges, les archanges feraient partie des anges ou des anges supérieurs. Et puis il y a les chérubins. Ah, mon petit chérubin. Chérubin. Mais où est-ce qu'on les trouve dans la Bible, ces chérubins? Alors, on va en parler en particulier au niveau de la Genèse. Et c'est dans la Genèse où on va parler, donc c'est une des références particulières. On dit d'eux qu'ils sont les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Et on va les trouver là, juste à l'entrée du jardin d'Éden. On va parler de ces chérubins. Mais un autre endroit où on va parler des chérubins, dans l'Exode, et on va parler aussi dans les Hébreux, ces chérubins, en fait, ce sont deux sculptures qu'on va faire avec de grandes ailes, et c'est pourquoi je suis revenu à ces histoires d'ailes, puisqu'il est dit qu'il y avait deux chérubins au-dessus donc de l'arche de l'Alliance, et ils couvraient de leurs ailes le propitiatoire. J'aime bien citer ce mot-là parce que c'est un des rares dont je me souviens, le propitiatoire c'est un couvert, là on ne va pas aller plus loin. Mais donc, on avait donc sculpté deux personnages, j'allais dire, et on va trouver une des premières références dans Exode 37, verset 9. Allez, je continue la liste ou pas? Pendant qu'on y est, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'heure ici, donc je ne sais pas. Quand il est 3 heures, vous me dites. Hein. Les séraphins. Alors on parle des séraphins, encore plus rarement, et je ne pourrais pas savoir exactement où est-ce qu'ils se situent, mais on va en parler, et c'est uniquement Ésaïe qui va en parler, dans Ésaïe chapitre 6. Il est dit que ces séraphins ont un ministère un peu particulier qui consiste à louer le nom et les qualités de Dieu au ciel. Voilà donc, y a-t-il une hiérarchie? Ma foi, oui, peut-être. Certains diront que ceux-là sont plus grands que ceux-là, etc. Je vais vous laisser, excusez-moi, patauger dans cette affaire. J'y ai réfléchi pendant un certain temps, puis après je dis, je ne vais pas plus loin, parce qu'après, pour moi, la chose n'est pas si facile, mais je ne voulais pas, par contre, de ne pas en parler. Par contre, il y a une autre catégorie d'anges dont il nous faut parler rapidement, mais je vais le dire quand même. Je vois qu'il y a une demoiselle qui a un grand sourire. Et elle pense à qui?
Les anges déchus.
Je me disais, elle a les yeux derrière. Ben oui, normalement, c'est mon aide visuelle. Hein, parce que je sais que je peux la passer après. Et je sais que c'est en rouge. Merci beaucoup.
C'est comme ça qu'ils savent pomper.
Ah, bien sûr. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans la hiérarchie, il faut le mentionner. Il est parlé donc des anges déchus, et ces anges déchus. Donc on les connaît, comme je le disais tout à l'heure, donc Satan et ses armées, ou son armée, dont le sort est prévu dans les temps de feu. Et ça, la parole de Dieu nous en parle d'une manière assez claire. Et puis, c'est quoi le prochain?
Les anges de l'Éternel.
Ah, c'est pas tout à fait ça, sauf si j'ai fait une erreur. Non. Voilà. Non, elle m'a dit ça au pluriel, si j'ai bien compris. Et ce n'est pas au pluriel. Pour une raison simple, et merci de l'avoir annoncé, ne rougis pas, hein, c'est pas... Comme ça, tu m'aides à aller sur le coin suivant, donc c'est très bien, c'est très bien. En fait, il est parlé de l'ange de l'Éternel. Il n'est jamais évoqué, ce terme, à ma connaissance, n'est jamais évoqué au pluriel. Il est parlé de l'ange de l'Éternel. Et quand il est parlé de l'ange de l'Éternel, et là on le voit assez souvent dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de l'ange de l'Éternel, il est parlé assez fréquemment donc de personnes qui se sont, enfin d'anges qui sont devenus des personnes, dont notamment qui sont venus voir Abraham et d'autres. Et là il y a encore toute une discussion qui est par rapport à là, malgré ce que je viens de dire tout de suite. Et on pense là. Quand on parle, quand il est parlé de l'ange de l'Éternel, c'est qu'il est parlé de Dieu lui-même, ou plutôt de Jésus, l'apparition de Jésus en direct. D'accord ? Même si c'est dans l'Ancien Testament. En fait, quand vous relirez l'Ancien Testament, moi je vous encourage à relire l'Ancien Testament avec cette pensée-là, que l'ange de l'Éternel, c'est probablement les interventions de Christ par rapport à une personne ou une autre. On appelle ça donc des théophanies, voire des christophanies, c'est-à-dire donc des manifestations de, visibles de Dieu ou de Christ. Alors, c'est vrai que là aussi, ça pose un certain nombre de questions. Je pense qu'il faut rester à ce qui est écrit dans le texte. On voit l'ange de l'Éternel apparaître pour la première fois aussi à Agar, à deux reprises, mais on voit l'ange de l'Éternel qui est apparu à d'autres personnages, pas que des personnages, puisqu'en réalité, quand on pense à Balaam, vous vous souvenez de Balaam ? Balaam, il est dit là aussi donc, que c'était un prophète, mais on ne sait pas trop où le placer, ce fameux gars. Et il est dit qu'à un certain moment, il a été soudoyé pour aller maudire le peuple de Dieu. Et il est parti sur son âne pour aller rejoindre le peuple de Dieu. Et c'est son âne qui aurait vu d'abord l'ange en premier. Et là, il est parlé de l'ange de l'Éternel. D'accord ? Alors, pour dire que les ânes ne sont pas si bêtes, hein, c'est l'ange qu'il a vu d'abord en premier. On va parler aussi, Juges chapitre 6, l'ange de l'Éternel serait apparu à Gédéon, Juges 13, à Manoah. Et à Manoah qui avait lui-même osé poser la question, mais bon d'accord t'es un ange, mais dis-moi quel est ton nom. Je lis le texte, Juges 13 verset 17, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est toute la réponse qu'il a eue. D'accord. C'était peut-être un peu mieux qu'à Moïse où il a dit « Je suis ». Voilà. 1 roi 19, il est apparu aussi à Élie qui était en pleine dépression, enfin, etc., etc., etc. Alors, quel serait leur ministère? Voilà, ça, encore une autre image qu'on voit. Moi, ça me fait penser à Noël. Et vous? J'ai un petit truc avec des bougies, là, et il y a des petits anges comme ça qui tournent, enfin, etc. Et chaque fois que je le cherche à Noël, on ne le trouve jamais parce que c'est planqué dans un placard, et enfin, etc. Vous avez des petites histoires comme ça, vous aussi. Hein. Ange gardien, vrai ou pas vrai? C'est aussi une autre question qui est posée. Et là, les commentateurs vont revenir sur ce fameux passage de Matthieu 10, 18, verset 10. Les anges voient la face du Père, enfant ou adulte. Il semble que ce verset parle ouvertement de ce qu'on appelle un ange gardien. Je vais lire Matthieu, ou si quelqu'un veut lire, ce passage de Matthieu 10. Matthieu 18, pardon. Vous voyez quelqu'un là ou vous attendez que je le fasse?
À partir de ce verset.
C'est le verset 10. Tu veux lire? Tu l'as?
Oui, oui. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. On est bien là, hein?
Oui.
Car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste.
Voilà. Certains vont déduire par là que avec chaque personne, il y a un ange gardien, mais un vrai, créé par Dieu. Ce n'est pas une personne connue de nous. Merci. Ce n'est pas une personne connue de nous, mais connue de Dieu, et qui serait effectivement une sorte de vis-à-vis, une sorte de gardien sur nos vies. Ok, d'accord ? Le texte le dit de cette manière, il est interprété de cette manière. Jusqu'où on peut aller, je crois que c'est bien de pouvoir l'évoquer. Il y a aussi des anges qui ont une fonction un petit peu particulière, et je ne vais pas oublier non plus de vous le mentionner ce matin. Il est parlé là aussi d'un ange qui venait régulièrement, enfin régulièrement, on ne sait pas à quel rythme, et il venait faire bouger l'eau de la piscine à Bethesda. Et vous savez que là, ils étaient là, ces gens 5, ces gens étaient là handicapés, et ils attendaient que l'ange passe pour que être le premier pour aller à l'eau et pour recevoir effectivement une guérison. Moi, ça m'a toujours fait drôle ce passage-là, et je me dis, mais pourquoi Dieu faisait cela, et pourquoi difficile à pouvoir dire, il faut le dire aussi, pour moi c'est une de mes questions. Autre encore, mais là on les connaît un petit peu mieux, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, les anges que j'appellerais annonciateurs sont des anges qui sont effectivement apparus à un certain nombre de personnages. Je l'ai mentionné donc pour l'ange Gabriel, auprès donc de Zacharie, Marie, on peut parler aussi des bergers. C'est aussi un ange qui va parler à Philippe dans Acte 8, verset 26, à Corneille, Acte 10, verset 3 et 22. Et puis, une autre question qui est posée aussi à propos des anges. Y a-t-il un représentant de chaque église comme ange ? Pourquoi je soulève cela ? Puisqu'en fait, si je lis les premiers chapitres de l'Apocalypse, en fait, il est parlé d'un ange comme représentant de chaque église, des sept églises. C'est la grande question qui va être posée aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'on va parler d'un ange, comme je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, ou est-ce qu'on va parler d'une équipe de représentants d'une église ? Est-ce qu'on va parler d'une personne particulière qui va être responsable d'une église ? Difficile de pouvoir dire, mais le terme est bien utilisé, l'ange. Vous l'avez lu comme moi, non ? Oui, 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 les smileys, là. Oui, mais je bois un coup de ta santé. Merci. Voilà, c'est Apocalypse, donc chapitre 1, verset 20 qui le mentionne, mais en particulier, donc verset 2 et 3, chapitre 2 et 3, et à plusieurs reprises, donc il est évoqué cette notion d'ange, il est parlé aux représentants de l'Église. Voilà quelques ministères dont on peut parler. Un ange qui vient au secours de Pierre, un autre qui va être là pour fortifier Paul, des anges qui sont là pour louer Dieu, des anges qui vont adorer Dieu, des anges qui se réjouissent de ce que Dieu fait. Ils sont là au service de Dieu, psaume 103, verset 20. Ils apparaissent devant Dieu, ils sont les instruments des jugements de Dieu, Apocalypse 7. Ils apportent des réponses aux prières, ils aident à gagner des gens à Christ, Acte 8, verset 26. Ils observent l'ordre, le travail et la souffrance des chrétiens, 1 Corinthiens 4, verset 9 et suivant. Ils encouragent en temps de danger, ils prennent soin des justes à l'heure de leur mort. Voilà, plein de choses que vous avez peut-être jamais entendues, peut-être déjà entendues, mais je voulais laisser là pour montrer qu'il y a des réalités qu'on ne connaît pas complètement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en conclusion ? La première des choses, et je ne l'ai pas mentionné volontairement, la première des choses est la suivante, c'est méfions-nous de notre accueil. Pourquoi il faut se méfier de notre accueil ? Pardon ? T'en as accueilli déjà combien ?
J'en sais rien.
J'en sais rien ?
Bienvenue chez eux.
En fait, c'est ça qui nous fait réfléchir, flipper peut-être de temps en temps, qui nous aide peut-être à décider à certains moments, je ne sais pas. Hébreux 13, verset 2, c'est un des chapitres très pratiques dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, et qui va dire, donc, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et je dirais aussi que c'est Sarah la femme d'Abraham qui s'est fait piéger aussi. Quand l'ange est venu le voir et qu'il lui a dit, ben voilà, tu vas être enceinte dans un an, etc. Elle a rigolé dans son coin en disant, bah, personne ne m'a entendu, personne ne m'a vu. Et l'ange lui a dit, si. Et pourquoi pouvait-il l'ange dire que si, tu avais ri? Étant Dieu lui-même, il était profondément au courant de ce qui se passait à l'intérieur. Elle s'est fait piéger, elle n'en savait rien. Ils étaient venus comme des êtres humains. La deuxième chose, c'est que je vais revenir à cet ange gardien, mon ange gardien. Oui, je veux bien croire que Dieu a placé un ange créé par Dieu lui-même. Pardon, et non pas une personne qui est décédée, etc., mais créée par Dieu lui-même et qui est intervenue et qui intervient à l'intérieur de ma vie d'une manière particulière à certains moments. C'est vrai, j'ai dit assez souvent, je parle souvent de cet exemple, excusez-moi si vous l'avez déjà entendu, quand je revois ma manière de conduire, peut-être que vous ne voudrez plus monter avec moi, je me dis heureusement que la police ne m'a pas arrêté à chaque fois que j'ai fait une bêtise sur la route. C'est vrai, quand on est tout seul, on ne se rend même pas compte. Quand des fois on est avec quelqu'un, c'est l'autre qui nous dit « Ah, t'as vu le feu rouge ?» Ben, s'il ne l'avait pas dit, je serais passé. D'accord ? Et à certains moments, je me souviens aussi avoir fait des pirouettes avec ma voiture et dit « Mais Seigneur, merci, tu m'as gardé. » Ça, c'est une chose qui est réelle. Mais il y a des fois. Alors, excusez-moi, je vais le voir avec humour, mais comprenez-moi. Et j'ai écrit « Génial d'avoir un ange gardien avec soi. » Mais certaines fois, je me demande s'il ne s'est pas absenté un moment. Vous êtes d'accord ? Ça fait aussi réfléchir. On ne comprend pas, on ne sait pas, mais le Seigneur sait. L'autre chose, le troisième point que je voudrais mettre dans ma conclusion, quand nous aurons quitté cette terre, que serons-nous ? Comme des anges ? Comme des anges ? La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va revêtir un corps spirituel d'après 1 Corinthiens 15. Et en fait, les anges ont aussi un corps spirituel. Ce sont des esprits. Mais on n'aura pas le même boulot que les anges, puisque les anges, eux, ont un boulot en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais quand nous serons auprès du Seigneur, il n'y aura plus de terrien, ce sera fini. Puisque Christ sera revenu, la fin du monde. Après, l'autre question se pose de savoir si on est le frère de Jésus, est-ce qu'on sera égal ou supérieur aux anges ? J'apporte pas beaucoup de solutions, j'apporte beaucoup de questions. Mais je vais vous laisser le plus beau verset sur lequel je m'accroche en permanence. Vous connaissez ce verset ? Alors, c'est le psaume 34, versets 7 ou 8, ça dépend des versions, qui dit, je vais prendre les deux versets, le verset qui va suivre, « L'ange de l'Éternel campe. » Non, il n'y a personne qui connaît ? Il n'est pas écrit. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'Éternel qui cherche en lui son refuge. L'ange de l'Éternel. On n'a pas seulement un ange gardien, on a l'ange de l'Éternel avec nous. Et qui est l'ange de l'Éternel ?
C'est Dieu lui-même.
Ben voilà. Je suis retombé sur mes pieds. Hein. C'est mon épouse se charge de me le dire. Ah, c'est bon, merci. Non, je voulais quand même revenir sur cette chose, ce verset qui est quand même essentiel et je ne vais pas m'amuser avec cela. Il est important de souvenir que l'Éternel reste avec nous en permanence. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ce qui m'amène à une autre question qui est la suivante. Si les anges sont au service de Dieu. Et moi, est-ce que je sais être au service de Dieu à 100%? Je propose juste de nous incliner dans la prière. Merci Seigneur pour toutes ces réalités que nous avons peut-être du mal à capter, mais qui sont quand même des réalités. Les anges, tu les as créés. Et tu les as créés pour de bonnes raisons. Et nous voulons te remercier parce que tu l'as fait. Nous voulons te remercier pour leur ministère. Mais nous voulons te remercier aussi pour toutes les fois où ils sont intervenus dans la vie des êtres humains, sous quelque forme que ce soit. Et nous te remercions aussi, Père, pour l'ange de l'Éternel que tu es aussi pour nous. Tu es celui qui campe autour de ceux qui le craignent et permet, Seigneur, que nous sachions te craindre dans le sens de te respecter parce que tu es Dieu, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es celui qui nous garde aussi entre tes mains, instant après instant, même si à certains moments, quand il y a des choses difficiles dans nos vies, tu nous permets de croire, Seigneur, que tu es au courant, que tu es là quand même et que tu ne nous abandonnes pas. Reste, Seigneur, celui qui nous montre le chemin. Reste celui qui est l'ange annonciateur, qui nous montre aussi la voie à suivre. Reste celui, Père, que nous voulons servir de tout notre cœur à 100% jour après jour. Amen.